Bonjour à vous, je vous accueille au musée de Saint-Brieuc et j'en suis la responsable Elisabeth Renaud.
On aurait voulu savoir si vous aviez une définition justement des formes participatives, parce que c'est très large.
Je pense qu'elles sont adaptées et adaptables et elles surtout, elles sont vraiment à tous les endroits et c'est pour vous montrer comment est à l'œuvre aujourd'hui dans les organisations, dans les structures patrimoniales, quels qu'ils soient, des vrais questionnements sur les métiers. Et ça, c'est important, je pense, pour vous, demain, se dire qu'aujourd'hui, je suis chargée des collections, ben, la frontière, elle est très faible, en fait, avec la médiation. Ou inversement, je suis chargée des publics en médiation, la frontière, elle est très faible, en fait, avec les collections. Donc, on demande aujourd'hui cette vision un peu transversale et du coup, qui amène à des rencontres et à des formes très, très différentes. Alors, il y a un rapport qu'on pourra vous envoyer. Le ministère de la Culture, vous le savez, peut-être vous l'avez eu en main. Hein, le ministère de la Culture a lancé une évaluation des formes participatives dans les institutions. Et du coup, il y a un rapport qui est sorti. Donc, en Bretagne, on est plusieurs hein, à être présents. Je pense à ma collègue de Brest, par exemple, au musée des Beaux-Arts de Brest. Sophie Lessard, qui est en train de mener une rénovation du musée. Elle a construit le projet culturel et scientifique avec les publics, avec les conseils de quartier, les comités de quartier.
D'accord, donc comités de quartier qui font partie de la politique de la ville.
Tout à fait.
Sur des quartiers prioritaires.
Tout à fait.
D'accord, donc ils y mélangent les deux de leur propre initiative
ouais,
ou c'est une volonté politique justement
de, je pense que derrière une politique, il y a une volonté politique, puisque on est, et Sophie, elle est sous régime municipal, mais en tout cas, c'est de construire, de co-construire en fait. Hein. Donc tout à l'heure, quand je parlais de maîtrise d'usage, elle ne l'a pas libellé ainsi, mais c'est un peu ça, hein, de voir demain quels sont, quels seraient les usagers, comment les usagers pourraient intervenir dans le musée. Je pense à Sophie, je pense à mon collègue à Douarnenez, je pense à Kelly Gann Coteau, qui est directeur du musée de Douarnenez, qui a produit une exposition qui s'appelait Bistrot, un regard sur les bistrots à Douarnenez, qui étaient des lieux de banque, puisque chaque bateau avait son bistrot, puisqu'il n'y avait pas de banque. Donc c'était le moyen d'aller déposer l'argent et récupérer son salaire. Ça a évolué avec l'apparition du chéquier. Ça a évolué aussi avec l'apparition du permis de conduire pour les femmes, puisque les femmes venaient chercher les marins et ils n'avaient plus l'occasion de rester au bar. Donc on est passé de 292 cafés bistrot à Douarnenez à, je ne sais plus aujourd'hui, il y a. Donc une exposition extrêmement intéressante qui a été menée avec une association. Du coup, toutes les étapes ont été créées. Donc ça, c'est une forme aussi participative. Vous pouvez retrouver Kelly, il a beaucoup publié sur cette expérience et qui est intéressante à voir et à questionner. Je ne parle pas du musée de Bretagne. Le musée de Bretagne qui est investi depuis des années sur les formes participatives avec aujourd'hui encore plus loin sur des formes de réappropriation du patrimoine avec une résidence là en ce moment qu'ils ont sur... avec Nicolas Vigneron, qu'on verra bientôt. Je pense au musée des Beaux-Arts de Rennes, qui également fait la libération de la donnée, qui fait de la réappropriation du patrimoine, comme nous, sous forme d'atelier de badge, comme on a pu faire cet été. Voilà, il y a cette pratique-là qui se fait. L'écomusée de Comana, en centre-Bretagne, qui a fait une carte sensible. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'une carte sensible d'un territoire, que chacun se représente son territoire et le dise, le formalise. Et du coup, c'est les habitants qui ont formalisé leur carte sensible du territoire. Extrêmement intéressant de voir le rapport. On pourrait projeter sur un territoire comme Saint-Brieuc, hein, entre les vallées, les tertres, les plains, les creux. Voilà, on n'a pas le même rapport, en fait, hein, de voir la mer, pas voir la mer, d'être, d'apprécier le fond de vallée, etc. Et du coup, c'est des cartes sensibles, ça, c'est des formes... qui sont intéressantes en forme participative. Et alors ça, c'est Catherine Sparta, ma collègue à l'écomusée de Comana, qui a mené ça, et ça, c'est une très bonne expérience. Voilà, peut-être une définition de forme participative, je crois que c'est vraiment très large et vaste. Mais du coup, le rapport, il faut me rappeler, le rapport sur la participation dans les institutions culturelles, on va vous l'adresser.
Merci. Et justement, est-ce que l'éducation artistique et culturelle a sa place dans ces formes participatives en patrimoine? Et si oui, comment?
Bon. C'est moi qui s'en occupe de la mise en place du dispositif. Bon, nous, au musée, actuellement, on a deux projets qui sont menés avec deux écoles et deux artistes sous deux formes assez différentes. D'un côté, on travaille autour de l'auto-édition avec un duo d'artistes qui s'appelle Attilée McLean et qui travaille autour l'auto-édition. En fait, les enfants ont envie de créer quelque chose et que ça eux-mêmes en quelque sorte les éditeurs de leur propre travail. Et de notre côté, on travaille avec Radioactif, qui est une radio associative. Et dans cet autre projet, on a plutôt l'intention d'inviter aux enfants de prendre la parole et puis être acteurs même de l'information. Et qui ne sera pas juste une question de consommation, mais aussi prise en conscience du rôle qu'ils jouent, du rôle qu'ils peuvent jouer dans les médias. Et bon, j'étais pas encore arrivé ici au musée, mais c'est depuis un moment des projets comme celui-là sont menés ici au musée, et ils sont aussi restitués tous les ans lors de la nuit des musées. Cette année, l'année prochaine sera le 13 mai, et en fait les participants tout au long de l'année scolaire restitue les travaux dans la galerie d'exposition permanente et temporaire ou permanente selon les résultats. Et en quelque sorte, les enfants prennent possession des lieux. On revient encore à cette idée de la désacralisation des musées. Hein. Et ça, c'est plutôt une posture personnelle, mais ils trouvent. En fait, c'est l'humain qui, en quelque sorte, anime un musée. Il anime les collections. S'il n'y a pas de public dans les institutions, pour moi, un musée sans public, c'est un entrepôt. C'est pas un public, en quelque sorte. Donc, c'est aussi une manière pour les enfants de découvrir le monde de musée et se rendre compte que ils en font partie. Hein. Sorte. Je ne sais pas si ça a été clair.
Peut-être sur un autre échelon, sur la question de la participation, sur les montages de projets d'éducation artistique et culturelle. Vous avez vu les fameux dossiers CERFA qu'il nous faut remplir dans une urgence extrême entre la mi-mai, la dépose du dossier, où on a les équipes enseignantes qui sont par Mons et par Vaud, où les institutions c'est pareil, la forme, la rencontre artistique, qu'elle soit en spectacle vivant, musique actuelle ou plasticienne, c'est toujours complexe. Et est à l'œuvre aussi dans les réflexions, hein, dans les institutions. Je pense à c'est Morgane Rouet à Rennes Métropole, à la direction culture de Rennes Métropole, qui porte cette réflexion. Et moi, j'y souscris, hein, sur la fatigabilité de monter les projets d'éducation artistique et culturelle chaque année. C'est-à-dire qu'on a, dans la forme participative, on arrive à un biais d'être dans une maquette préconstruite où on va rencontrer les enseignants en disant « ben voilà, il faut signer ». C'est-à-dire que la rencontre avec l'artiste entre l'équipe enseignante, elle va se faire dans le projet, mais il nous manque un temps. Donc, par exemple, les transmusicales, le festival des transmusicales, maintenant, ils mènent leur projet d'éducation artistique et culturelle sur 3 ans. Il y a une année pour se rencontrer. Il y a une année pour porter le projet et le vivre, et puis une année pour porter le projet et une année pour la célébrer, au moins qu'on le célèbre, quoi. Du coup, je trouve que c'est intéressant dans la question de la forme participative et de comment on monte dans les projets d'éducation artistique et culturelle, peut-être un regard à porter. Je pense que les transmusicales, ça peut être intéressant de voir un peu comment ils mènent cette réflexion. Venir sur l'expérimentation que nous avons menée sur l'exposition Vivre avec la grève du jeune français, puisque c'est vraiment avec une construction de public tout au long cours. Donc c'est une résidence de recherche en sciences sociales que nous avons menée dans le cadre d'une coopération avec le conseil départemental, avec la ville Arouanec, qui est un lieu de fabrique. Vous le connaissez peut-être ce lieu?
Non.
Jamais visité sur Saint-Brieuc, c'est cette villa italianisante là qui a une vue sur la baie.
Parler, ouais.
Voilà, hein, donc c'est un lieu de fabrique et pas, c'est pas forcément un lieu de résidence que artistique. Hein. Il peut avoir des paysagistes, des architectes. Et du coup, on a fait avec Claire Létournelle, pardon, ce pari d'une résidence en sciences sociales. Et du coup, nous avons accueilli deux chercheurs en anthropologie, Nayeli Palomo et Noël Barbe, pendant 2 ans sur le territoire sur des questions patrimoniales. Qu'est-ce que peut le patrimoine aujourd'hui et qu'est-ce que l'oralité fait au patrimoine pour la deuxième année? À Saint-Brieuc, de se dire, donner la voix à ceux qui ne l'ont pas eu ou que ceux qui ne l'ont pas, et notamment avec en ligne de mire cette année, 2022, 1972, 50 ans, avant, il y a eu une mobilisation à Saint-Brieuc qui a mis à l'échelon national, voire international, la ville de Saint-Brieuc. C'est la manifestation qui a eu lieu autour de l'augmentation salariale demandée par les ouvriers de l'usine du joint français. Donc, usine de joint automobile qui vont se mobiliser puisque à la maison mère à Besançon en région parisienne, il y a eu une augmentation, mais il n'y a pas eu ici en Bretagne. Donc du coup, c'est toute cette mobilisation, cette levée de bouclier pour dire vivre et travailler au pays, la reconnaissance, donc avec tout ce qui a eu lieu d'un point de vue politique à ce moment. Donc on avait ça en ligne de mire, ce 50e anniversaire qu'il fallait marquer. Et quand on ouvre les collections du musée, on n'a rien. Donc c'est cette prise de conscience aussi hein, de la collecte contemporaine au niveau des acquisitions et de se dire comment est-ce qu'on peut porter un regard nouveau, pas en histoire, en anthropologie, même si on s'est donné sur l'année, Emmanuel Lahaute avait suivi ce que nous avions mené en colloque universitaire en histoire là, au mois de mai. Donc on a réouvert la question, plein de questionnements. On pourra vous redonner le programme si ça vous intéresse, et de revoir comment en anthropologie on pose la question de quoi on hérite, qu'est-ce qu'on sacralise. Hein, c'est le débat actuel sur les tableaux qui sont avec les manifestations pour dénoncer le rapport du GIEC et la mobilisation de la COP27, lancer de la soupe sur un Van Gogh, bah, la question de fond qui est posée derrière, c'est qu'est-ce qu'on sacralise? Est-ce qu'on sacralise les œuvres d'art ou la nature? C'est ça le questionnement. Le questionnement là, c'est de se dire de quoi on hérite et comment on en hérite, du coup, et de voir comment on peut l'activer au contemporain.
Donc là, ça, c'est un tableau blanc où n'importe qui peut venir coller.
Oui, tout à fait. Si vous voulez.
Ou dessiner.
Oui, si vous voulez y aller, c'est bienvenu. Et à la fin, on voudrait restituer toutes les interventions du public. Hein. On se pose la question comment on fait une photo autour ou quoi, mais c'est. C'est chouette de voir que les gens s'emparent de cette scène ouverte en quelque sorte. Et qui, nous, on a mis à disposition quelques documents. Et c'est fou de voir qu'il y a des gens qui apportent leurs propres documents ensuite, qui écrivent, qui signent.
On avait une question. Qu'est-ce qui fait patrimoine pour vous ou, qu'est-ce qui différencie, comment on peut définir ce qui est patrimoine, patrimonial?
Oh.
Est-ce qu'il ne l'est pas?
Ah oui, est-ce qu'il ne l'est pas? Ah oui, voilà, ça c'est une question qui revient à aimer répondre Madame Bonan, parce que c'est une des questions qu'on se pose, même dans l'actuelle exposition temporaire, en fait, est-ce qu'une grève peut être considérée de patrimoine? Vous voyez, on n'a rien dans le fond de musée qui sont liés à la grève et pourtant c'est un événement assez important, assez marquant, et pourquoi pas parler pourquoi pas parler aussi de matrimoine, c'est quelque chose qui, c'est une question que si on tient encore au musée, hein, c'est vraiment oui, qu'est-ce que c'est que le patrimoine, pourquoi pas l'appeler autrement. Et ah oui, c'est pas facile, je crois que c'est une question que... pas si facilement. c'est vraiment philosophique.